Bien, mes chers collègues, merci pour votre confiance. Et encore une fois, à cette heure, merci à nos concitoyens qui, dimanche dernier, nous ont, pour plus de 700 000 d'entre eux, investis pour ce nouveau mandat. Et merci à vous. Je ressens profondément l'honneur qui m'est fait de continuer à présider notre Assemblée. Fort de votre confiance, au-delà de celle de nos concitoyens, je repars avec vous avec la même détermination, le même engagement, la même disponibilité et la même écoute. J'entends qu'avec notre majorité, nous réalisions notre projet. L'enseignement du scrutin de dimanche dernier, mes chers collègues, est double. Les observateurs ne se sont d'ailleurs pas trompés. Adhésion à la politique régionale et à sa prolongation, refus marqué et sans précédent par son ampleur de la politique nationale, y compris à l'égard des collectivités locales. Or, si nous ne sommes pas ici un contre-pouvoir, nous sommes bien souvent l'affirmation d'une contre-politique. Si nous ne sommes pas opposés à l'État, nous le sommes au gouvernement et à la politique qu'il conduit. Elle concerne tous nos concitoyens et ceux qui se sont prononcés dimanche dernier. Ainsi s'accomplit la démocratie, qui exige de celles et ceux que le peuple a choisis l'affirmation de leurs convictions et le respect de leurs engagements. L'exercice du pouvoir est toujours un art difficile. Il l'est davantage encore par temps de crise. Mais précisément parce que nous traversons une crise, il exige de ceux qui gouvernent la France qu'ils pratiquent la solidarité. Ce que nous condamnons et dénonçons, c'est d'abord, car tout en découle, une politique qui, à l'inverse, creuse des inégalités et réserve ses faveurs à ceux qui étaient déjà les plus comblés. De cette politique souffrent nombre de nos concitoyens. Et c'est ce qu'ils nous demandent de dire ce matin à cette tribune. Leur vote de dimanche dernier est une sanction pour la droite. C'est par leur vote que s'expriment les citoyens, qu'ils se rendent aux urnes ou qu'ils n'y aillent pas. C'est leur message qui doit être entendu, quelle que soit l'élection, puisque c'est par leur bulletin de vote qu'ils prennent part au débat public. Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur notre projet. Il a été approuvé avec suffisamment d'ampleur pour s'imposer. Il s'inscrit dans la poursuite d'une politique régionale construite qui a souvent permis à Midi-Pyrénées de figurer parmi les régions exemplaires. À ceux qui continueraient de la caricaturer, je répondrai simplement « Écoutez donc le verdict des urnes, ne contestez pas le suffrage universel, réfléchissez. » Car les 14 et 21 mars, c'est aussi l'approbation de cette politique régionale, qu'ont affirmé les Midi-Pyrénéens. Ils l'ont fait dans les villes. Ils l'ont fait dans les campagnes. Ils l'ont fait dans chacun des 8 départements qui composent notre région. De l'Aubrac au Puy du Midi, des confins du Gers et des Landes, à ceux de la Haute-Garonne et de l'Aude. Ils ont su distinguer ce qui relève d'une politique nationale défaillante et ce qu'accomplissent aujourd'hui, dans une République décentralisée, les collectivités locales et au premier rang la région, dans sa coopération souvent avec les conseils généraux et autres collectivités Je salue d'ailleurs à cette occasion la présence de plusieurs parlementaires et présidents de conseils généraux ici ce matin. Ils ont dit, nos concitoyens, qu'il y avait une politique régionale forte en direction de la jeunesse, de l'éducation et de la formation. Et ils ont désapprouvé la suppression de dizaines de milliers de postes d'enseignants par an. Ils ont dit qu'ils sanctionnaient la désindustrialisation de la France, la montée du chômage et de la précarité, et qu'ils approuvaient les efforts de la région en direction des très petites, petites et moyennes entreprises, dans sa défense de l'emploi, dans le renfort de la recherche pour l'émergence de nouveaux métiers, dans les grands secteurs de notre économie comme en direction des filières et de l'innovation. Ils ont dit, nos concitoyens, qu'après des années de retard accumulés dans le domaine des communications et des transports, ils avaient compris que la région a, depuis 12 ans, fait et engagé patiemment, mais obstinément, ce qui avait été oublié. Enrayer le déclin des transports collectifs et réaliser en 6 ans ce que personne n'imaginait auparavant. Ils ont dit, nos concitoyens, dans le domaine de l'environnement, que la région Midi-Pyrénées se classait en tête des régions françaises, à quelques jours du commencement du démantèlement du Grenelle et du piètre retrait de la taxe carbone, injuste et inefficace, comme l'avait jugé le Conseil constitutionnel. Ils ont dit, dans l'espace associatif, de solidarité, de sport, de culture, d'environnement, qu'ils subissaient des coupes sombres dans leur budget, les mettant dans la difficulté, alors que nous continuons de les aider parce qu'ils tissent le lien social et sont parfois les seuls à le faire quand les services publics s'éloignent. C'est, mes chers collègues, dans tous ces domaines et dans d'autres que nous voulons aller plus loin. En nous rapprochant pour constituer la majorité régionale, nous n'avons les uns les autres renoncé à rien, ni aux appréciations que nous portons sur la politique nationale, ni à nos objectifs régionaux. Nous avons simplement précisé nos exigences et fait évoluer nos perspectives en fonction de l'évolution de la société elle-même, des préoccupations sociales et environnementales qui dominent. Certains, je l'imagine, railleront notre union. Sans doute parce qu'ils n'auront pas grand-chose à dire après le verdict des 14 et 21 mars. Sans doute aussi parce que le rassemblement des forces de gauche et de progrès les inquiète. Au-delà d'aujourd'hui, pour d'autres échéances, je les invite d'ores et déjà à regarder dans leur propre camp, au moment où nous nous rapprochons, eux se divisent. C'est une manière de détourner l'attention de l'essentiel. Mes chers collègues, nous avons tenu à ce que la majorité régionale associe l'ensemble des forces de gauche et le progrès, partenaires du premier tour, partenaires du second. Tous devaient trouver leur place dans l'exécutif régional, comme dans les instances qui demain feront vivre notre projet. C'était l'engagement que j'avais pris, je l'ai intégralement respecté. Celles et ceux qui composent maintenant notre majorité l'ont fait aussi, comme dans le passé, à des époques différentes, je les en remercie. Je sais ce qui fait l'unité de notre majorité. Je sais aussi nos sensibilités diverses. La diversité dans l'Union n'a jamais affaibli. Au contraire, elle renforce. L'essentiel, et c'est notre engagement, c'est d'abord le respect de chacun. Et ensuite, comme nous y ont invité celles et ceux qui nous ont désignés, de faire toujours prévaloir ce qui nous fédère sur ce qui peut nous distinguer. C'est ainsi, je le dis à la majorité régionale, que nous servirons nos concitoyens et la région et préparons l'avenir. Il commence aujourd'hui. Conforter les axes majeurs de la politique régionale, poursuivre une politique de proximité, Rechercher toujours une approche plus citoyenne, c'est notre engagement. Permettre à chacun de s'exprimer librement, chacun dans le respect des autres, c'est aussi l'engagement que je prends. Nous sommes, mesdames, messieurs, les tenants d'une régionalisation renforcée. Je crois aux vertus d'un État républicain, laïque et fort, dans un monde agité, sur lequel une mondialisation effrénée, la financiarisation de l'économie et l'approfondissement des inégalités entre le Nord et le Sud font peser à la fois des risques de conflit et de tension sociale contre lesquels le médiateur de la République lui-même mettait en garde le gouvernement il y a quelques semaines. Plus que jamais, la France a besoin de ses collectivités locales, de toutes, et de ses régions, car elles sont l'un des piliers sur lesquels s'appuie le plus souvent l'Europe. Quoi que l'on pense de la philosophie qui l'anime et de ses politiques monétaires, industrielles ou agricoles. Parce que la proximité justifie plus que jamais la régionalisation, parce que la France se distingue et continuera de pâtir de son centralisme historique. Je voudrais conclure par là. Le besoin de région. Ce sera, mes chers collègues, sans doute l'un des combats les plus forts que nous aurons à mener dans les mois qui viennent, et l'un des plus déterminants pour l'avenir. Car de la réforme en cours des collectivités locales dépendra pour beaucoup, et pour nos concitoyens, le devenir des politiques communales, intercommunales, départementales et régionales. Nous ne devrons pas cesser de dénoncer les propos partisans tenus sur les régions pour tenter de les discréditer auprès de l'opinion publique. Cela n'a pas marché. C'est la preuve que nos concitoyens ont su déjouer la manœuvre. Mais le procès des dépenses inconsidérées et des recrutements sans mesure reprendra. Rappelons seulement ce qui est évident. Les 26 régions de France ne totalisent que 5% des effectifs totaux de la fonction publique territoriale. Ils n'ont progressé que par le transfert des personnels de l'État. Avant qu'elles ne soient supprimées, la fiscalité régionale ne représentait que 8% de la fiscalité locale dans son ensemble. Et l'endettement global des 36 000 communes de France, des 100 départements et des 26 régions n'atteint pas 80 milliards d'euros contre les 1400 de l'État et ses 140 milliards de déficit alors qu'elles ont dégagé 28 milliards d'autofinancement en 2009. Le gouvernement a choisi la voie de la recentralisation, c'est-à-dire de leur affaiblissement. Veut-il à terme nous interdire d'assurer la solidarité entre les territoires ? Celle que nous dégageons à l'égard des familles, des demandeurs d'emploi pour les plus défavorisés, la gratuité des transports. A-t-il mesuré les conséquences de l'affaiblissement des collectivités sur les économies locales? Il vient nous chercher lorsqu'il a besoin de nos moyens financiers pour compléter les siens. Là, il exige. Pas d'université moderne si vous ne payez pas. Pas de TGV si vous n'intervenez pas. Pas de liaison routière nationale si vous ne financez pas. Par contre, lorsqu'il imagine une réforme des lycées, il ne nous consulte pas. Lorsqu'il fait voter des lois, qu'il s'agisse de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou du transfert des écoles d'infirmières, il fait l'impasse sur le financement et se contente de dire « ce n'est plus à moi ». Ce n'est pas la suppression de la taxe professionnelle qui pose problème. C'est celle de toute possibilité désormais pour les régions de faire évoluer leurs moyens budgétaires, alors que progressent sans cesse les dépenses obligatoires. Le gouvernement et sa majorité devront se ressaisir. S'ils ne le font pas, il faut qu'ils sachent que nous ne renoncerons pas à nos priorités. Il prendra le risque de devoir assumer seul celles qui sont de sa propre responsabilité, celles qui, au titre des compétences transférées, relèvent toujours du domaine de l'État et qu'il nous demande de partager avec lui. C'est, mes chers collègues, ce qu'a exprimé notre Assemblée à l'unanimité, je le rappelle, dans une délibération du 17 décembre dernier. Les régions seront fermes sur ce point. Pas seulement la nôtre, déterminée ou contrainte, toutes les régions de France. Je pourrais évoquer aussi notre condamnation de la suppression des élus régionaux en 2014 et la fin annoncée de la parité. Bref, notre désaccord le plus total sur la réforme des collectivités telle que le gouvernement et sa majorité la conçoivent. Je voudrais, avant de conclure, rappeler aux élus de la minorité régionale que rien ne changera dans l'attention que j'ai toujours portée à toutes et à tous, à sa libre expression dans le cadre de notre règlement intérieur et à la transparence de nos décisions. C'est la raison pour laquelle, à la demande de plusieurs groupes, j'ai pensé que ce matin, chaque groupe devait pouvoir s'exprimer, même si ce n'est pas dans la tradition de cette séance d'ouverture. Et je rappelle à ce sujet que le Code des collectivités territoriales ne permet pas d'intervention avant l'élection des vice-présidents et de la commission permanente. Je le rappelle, car j'en ai déjà entendu la critique. Je le rappelle à Mme Barège. C'est le texte, madame, ce n'est pas moi, qui n'autorise pas les interventions. D'ailleurs, je l'ai respecté moi-même, le texte, puisque j'interviens seulement maintenant. Je veux également remercier nos services pour la qualité du travail qu'ils effectuent. Je veux demander au directeur général de transmettre ce message à tous nos collaborateurs directs ou à ceux de nos agences. Je veux remercier celles et ceux qui ont participé au dernier mandat et qui ont rempli leurs fonctions avec dévouement et sérénité, dévouement qu'ils porteront sur d'autres bancs, n'ayant pas eu la chance de revenir parmi nous. Je voudrais dire à certains que je regrette leur absence, mais qu'il en va ainsi du suffrage universel. Saluant les élus des autres collectivités présents ce matin et des parlementaires, je dirai enfin au président du Conseil économique et social, Jean-Louis Chauzy, l'estime que nous portons à l'Assemblée qu'il préside et à ses membres, l'intérêt que nous avons toujours porté à ses avis, que nous le consultions ou qu'il s'autosaisisse, ce qui relève de ses attributions. Mesdames, Messieurs les élus, s'ouvre un nouveau mandat. C'est maintenant que pour nous commence le chemin que nous nous sommes engagés à parcourir ensemble. À nous tous de faire en sorte qu'à son terme, nos concitoyens puissent en mesurer l'efficacité. À nous de faire en sorte que la régionalisation en soit renforcée. Nous sommes ici, ne l'oublions jamais, au service de celles et de ceux qui nous ont mandatés pour les représenter. À nous de nous montrer dignes de leur confiance. Merci.